Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse, est avec nous. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène.
Julien, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, termine des audiences publiques sur la définition du contenu canadien. Il en est question dans Franco-Presse, notamment.
Oui, ça se termine dans ces jours-ci. Ça fait environ 2 semaines que ça fonctionne, que ça avance. Puis, on s'est attardé sur l'Association des producteurs francophones du Canada qui sont allés déposer un témoignage et un rapport la semaine dernière où ils dénoncent une absence quasi totale de considération pour les francophones en diffusion de contenu pendant les audiences tenues par le CRTC. Donc, ces audiences-là servent à définir ce qu'est le contenu canadien. Puis, bon, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés, mais sur 65 témoignages environ, l'Association déplore qu'il y a seulement eu eux et l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario, qui sont allés parler de contenu francophone en milieu minoritaire. Radio-Canada y était lundi, après qu'on ait publié le texte, mais on l'a écouté, puis Radio-Canada n'a pas dit grand-chose non plus sur la production de contenu en français à l'extérieur du Québec. Puis, contrairement à la majorité des 65 personnes qui sont allées, 65 organisations qui sont allées témoigner, l'Association des producteurs de contenu francophone du Canada réclame plus de réglementation pour la production ou la télédiffusion de contenu en français au Canada, parce que la plupart des autres demandaient des allègements, des façons d'aller chercher peut-être, pas d'aller chercher plus de fonds, mais de pouvoir réduire les coûts de production. Donc, on veut moins de contraintes. L'association demande le contraire pour assurer qu'il y ait une présence francophone sur les plateformes de télédiffusion au Canada. Elle demande au CRTC d'imposer des exigences minimales aux entreprises de télédiffusion pour les dépenses de programmes originaux en langue française qui sont produits par et pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. L'association a aussi dénoncé pendant son passage a dénoncé la diminution du nombre de productions jeunesse en français. Ça a été à son plus bas en 2024-2025.
Par ailleurs, des fermes victimes des coupes du gouvernement dans les banques alimentaires, dis-je bien.
Les fermiers du comté de Kent au Nouveau-Brunswick sont inquiets. Le gouvernement libéral du Nouveau-Brunswick a réduit de moitié le financement qui était destiné à une entente qu'ils ont avec le dépôt alimentaire de Moncton qui fournit des denrées aux banques alimentaires de la région. Il y a plusieurs fermiers qui vendaient une partie de leur production à ces banques alimentaires-là, puis ça assurait à la fois un approvisionnement de nourriture fraîche aux banques alimentaires et une solution pour les fermiers pour écouler une partie de leur stock et parfois leur surplus. Ce qui les étonne, c'est que le gouvernement provincial a annoncé en février un partenariat de 11 millions de dollars avec le fédéral pour fournir des déjeuners aux élèves. Puis ils se demandent pourquoi il y a du financement qui est disponible pour les déjeuners, mais pas pour les banques alimentaires. Puis du côté du dépôt alimentaire de Moncton, on dit qu'on est encore en discussion avec le gouvernement de Susan Holt. On espère pouvoir sécuriser le financement qui manque, donc ça va être à suivre.
Une première maison de transition pour réfugiés africains francophones, ça se passe à Toronto.
Bon, on sait déjà que c'est une des plus grandes difficultés pour les immigrants qui arrivent ici, qui arrivent au Canada, c'est de trouver un logement en ce moment, comme tout le monde, ils ne sont pas les seuls. Mais pour des réfugiés qui arrivent ici, c'est encore plus compliqué parce qu'ils arrivent avec des traumatismes des fois. Donc, ils ont un poids mental un peu plus élevé. La passerelle IDE de Toronto, qui est un organisme qui vient en aide aux immigrants depuis quelques années, vient d'ouvrir une maison de transition pour réfugiés africains et francophones. Le refuge s'appelle l'Agapante. Ils peuvent accueillir 50 personnes. L'organisme a déjà des liens avec d'autres refuges d'accueil de réfugiés à Toronto, mais qui ne prennent pas la langue en considération. Donc, le nouveau centre de la passerelle va pouvoir accueillir ceux qui parlent français, qui ont besoin de services en français. C'est tout nouveau, là, ça a ouvert il y a quelques jours, nous dit l'article de l'Express. Alors, tous les services ne sont pas encore en place. Ils vont devoir créer des nouveaux partenariats, surtout pour offrir des soins de santé primaire et des soins de santé mentale. Puis, bon, c'est une maison de transition. Il faut rappeler que ça permet aux gens de rester quelques jours. Là, il y a 50 lits, mais on voit dans des photos, c'est plus des dortoirs. Ce n'est pas un bloc à appartement. Donc, on peut rester là quelques jours, peut-être quelques semaines, mais ensuite, il faut quand même se trouver un logement. Puis, ça reste difficile à Toronto.
Oui, et pourquoi ce nom, l'Agapante?
Bien, d'après ce qu'on nous dit dans l'article, c'est le nom d'une fleur d'Afrique du Sud. Et le nom... la traduction, la signification du nom latin, du nom grec d'origine, ça veut dire fleur de l'amour.
Oh, c'est très, très beau. Maintenant, dans l'eau vive, les familles françaiscoises obtiennent l'abolition des frais scolaires.
Il y a un an, le conseil scolaire de la Françaiscois a demandé aux parents de payer, aux familles, de payer 150 $ par mois pour envoyer leurs enfants à la prématernelle et à la maternelle à temps plein. Pourquoi ils faisaient ça? Ben, c'est que, en fait, je vais vous dire avant, les frais ont finalement été abolis, vont l'être en septembre, parce qu'il y a une campagne de protestation de la part d'un regroupement de parents. Le conseil scolaire avait imposé ces frais-là parce que la province ne finançait pas ou partiellement la maternelle et la prématernelle. Donc, il n'y a pas assez de revenus, il n'y a pas assez de subventions pour offrir ces services-là que le conseil a décidé d'offrir. Fait que ça a créé un manque à gagner pour le conseil scolaire. La situation est injuste pour ce que nous dit une des mères à qui ils ont parlé, parce qu'elle dit qu'en plus du 150 $ que certaines familles doivent payer pour envoyer leurs enfants à la maternelle et la prématernelle, ils doivent aussi payer 250 $ pour le service de garde après l'école. Donc, ça commence à faire cher pour envoyer ses enfants à l'école. Puis même, elle a considéré envoyer sa fille dans une école anglophone parce qu'il n'y a pas ces frais supplémentaires-là. Elle a quand même gardé sa fille dans le système francophone et a décidé de contester la mesure. Ça reste un problème. Là, le problème persiste parce que le conseil scolaire, oui, a accepté d'enlever les frais, mais ne le fait pas parce qu'ils ont eu plus d'argent de l'autre côté. Donc, ils vont devoir continuer à se battre avec un manque de fonds. Un des comités de parents envisage de poursuivre le gouvernement provincial parce qu'il estime que les droits constitutionnels des francophones sont bafoués parce qu'ils n'ont pas accès au même niveau que les anglophones à une éducation de qualité.
Maintenant, un rapport sur les feux 2023 dénonce une gestion improvisée. C'est dans l'Aquilon.
Oui, vous vous souvenez sûrement des incendies de forêt là, qui ont menacé Yellowknife à l'été 2023.
Tristement, oui.
Oui, ça avait provoqué l'évacuation de la ville et ça avait été un peu chaotique comme processus, disons. Il y a un rapport qui a été fait par une firme externe qui est très critique sur la gestion de cette crise. Le rapport vient d'être publié. Puis, dans le rapport, on pointe le manque de préparation, la communication désorganisée et l'absence de coordination pour expliquer le chaos. Un des problèmes, nous dit-on, c'était le manque de formation de plusieurs personnes qui travaillaient dans le système de commandement des interventions. Mais c'est pas la seule chose parce que le rapport propose 30 recommandations. La principale, c'est la création d'un organisme territorial pour gérer et préparer le territoire en cas de crise majeure. En ce moment, c'est des petits groupes, des petites organisations plus locales ou régionales qui s'en occupent et la communication entre chacune n'est pas maximale. Donc, la crise de 2023 a démontré les limites de ce système-là. On préconise également d'intégrer les communautés autochtones dans le processus décisionnel.
Mieux vaut prévenir que guérir. Et puis, comme dernière nouvelle, le Centre culturel francophone de Vancouver souffle ses 50 bougies.
Oui, ça nous rappelle que les francophones sont bien actifs partout au pays depuis pas mal longtemps. Le centre a lancé ses célébrations du 50e avec une exposition de photos qui retraçait son histoire, ou une partie de son histoire. Et la fréquentation a largement dépassé le nombre de personnes qui étaient attendues. Là, on avait envoyé un nombre d'invitations, puis il y a plus de gens qui sont venus que d'invitations qui avaient été envoyées. Donc, le centre est heureux, dit que ça démontre un peu comment leurs services sont populaires. Puis, il va y avoir d'autres célébrations organisées tout au long de l'année. Le centre offre plusieurs services. Parmi ceux-là, il y a une bibliothèque avec plus de 8000 titres en français pour tous les âges. Ils offrent aussi des cours de langue française. Puis, apparemment, ils ont eu un record d'inscription cette année avec 160 personnes. En 1980, ils ont créé le camp Virgule, un camp d'été pour les jeunes, puis il fonctionne encore. Puis le Festival d'été francophone de Vancouver est toujours actif aussi, qui a été créé par le centre. Ils nous disent qu'ils ont un beau problème parce qu'il y a une demande croissante des services. Ils envisagent surtout d'ouvrir des nouveaux bureaux satellites dans les banlieues de Burnaby, Vancouver Nord et Richmond pour répondre à cette hausse de demande-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace dans leur local ou au centre de Vancouver pour offrir plus de services, mais aussi parce que c'est loin un peu pour ces banlieues-là.
Alors, joyeux 50e au Centre culturel francophone de Vancouver et surtout longue vie. Merci beaucoup, Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.